vont se faire en quatre temps. Et ce soir, ça sera plutôt un tour d'horizon. On va remonter dans le temps pour trouver les origines de ce que nous appelons la mission. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas dans la Bible où nous trouvons les origines, mais bien ailleurs. Donc ça sera la première chose. Et puis nous allons voir un peu comment ça s'est développé et quels sont les changements qui nous amènent à repenser, pas seulement nous, mais dans toutes les églises, dans tous les courants du christianisme, il y a eu une réflexion depuis les dernières décennies sur la question, mais c'est quoi la mission de l'Église et comment faire la mission ? Et que vous allez dans les milieux catholiques ou dans les milieux protestants, ou dans les milieux évangéliques ou orthodoxes, la même question se pose. Et il est très intéressant de voir comment les pensées se convergent vers un concept, vers un modèle, vers une idée de la mission qui est plus large que ce que nous entendons traditionnellement par la mission. Et d'où le thème « Tous envoyés, les missions de l'Église dans le monde ». Est-ce que la sonorisation est plus que parfaite ? Déjà parfaite, plus que parfaite, plus que parfaite. Les images, bon, parfois il faut pousser les yeux un peu parmi les autres épaules devant vous pour voir le bas de l'écran, mais je ne peux pas hausser l'image. J'ai sélectionné quelques livres qui me semblent être utiles pour vous. Et au lieu de mettre 20 titres sur une table qui ont pour conséquence qu'on n'achète rien, trop d'offres tue la demande, c'est ça l'adage, j'ai fait une sélection. D'abord un livre, « Quelle est la mission de l'Église ?» Ça, c'est une réflexion récente qui émane de ce que je viens de dire, toute cette réflexion qui a eu lieu dans le monde missionnaire les dernières décennies. Donc c'est un livre plutôt étude biblique. Pour ceux qui aiment ça, il fait le tour de tous les passages. Voilà. Moi, je vais tirer le plus d'informations de ce livre qui est paru sous ma direction, mais où plusieurs personnes ont contribué. L'Église locale en mission mondiale ou interculturelle. Et là, plusieurs auteurs qui sont impliqués dans la mission d'une manière ou d'une autre ont contribué de leur expertise pour faire un bouquet qui fait le tour de tout ce qui est maintenant, qui touche à la communication de l'Évangile auprès et au loin. Et ça, c'est un livre que j'utilise beaucoup aussi dans les formations Forme Après. Par exemple, c'est un livre que nous utilisons parce qu'il y a une dizaine d'auteurs qui, ensemble, apportent un enseignement condensé et très riche. Donc ça, c'est le livre que je vous conseille, parce que là, vous avez tout ce qui touche à l'Église locale avec une vision mondiale, globale. Ça, sont des deux livres que j'ai commandés en plus. Il y a quelques années, il y a eu un congrès et Hannes Vier, mon collègue de Vaux-sur-Seine, a fait une production, la mission de l'Église au XXIe siècle. Et là, ça parle plutôt des tendances, des développements récents. J'ai contribué un chapitre ou deux, je pense, ici. Il y a plusieurs auteurs qui ont contribué à cela. Et c'est un livre qui nous met un peu à la page de l'évangélisation dans le monde entier. Il y a d'autres livres encore que vous allez voir sur la table qui émanent tous d'un réseau qui s'appelle REMEF, c'est un réseau évangélique de missiologie en Europe francophone. Et je fais partie, j'ai l'honneur d'en faire partie, c'est un réseau d'enseignants, théologiens, mais aussi de praticiens, dirigeants d'œuvres missionnaires qui se rassemblent autour des thèmes et qui font une réflexion approfondie Et chaque année, on produit un livre qui passe par la critique de chacun. Ça s'appelle peer review en anglais. Donc ça veut dire que ce que j'écris, ça passe par au crible des autres collègues, et ce qui reste après la critique va être publié. Voilà. Donc c'est déjà une manière de ne pas dire tout et n'importe quoi, mais de s'exposer aussi au regard des autres qui ont des choses à dire. Et donc c'est ça la richesse de ces bouquins, parce que c'est un travail d'équipe en amont qui a donc abouti à ces œuvres. Et ce que je vais faire dans ces quelques jours, bon, c'est une sélection. C'est une sélection de sujets que j'aborde, soit dans la faculté ou dans les églises. Le niveau est pareil, parce qu'il ne faut pas se tromper du niveau des étudiants en faculté de théologie. Dès qu'on parle de la mission, on est au même niveau, parce que ça nous concerne tous. Et bien évidemment, je fais une sélection. La manière dont je procède, c'est que je n'ai pas l'habitude de juste parler comme ça. Si vous avez de quoi dire, vous manifestez. Et vous levez vos mains en disant, est-ce que ça je ne comprends pas, ou comment ça, ou est-ce que tu veux encore expliquer cela, ou une remarque. Donc sentez-vous libre d'intervenir. Quand vous avez une perle de sagesse à apporter, bien sûr, ou d'autres perles. Mais n'hésitez pas à m'interrompre. Je suis père de 5 enfants et dans la famille, le temps maximum alloué à papa était de 2 minutes, donc je n'ai pas l'impulsion. Et à la faculté, c'est 10 minutes au maximum. Donc, je pense que dans les églises, on est plus sympathique. Ouais. Ok, vous avez reçu un programme, c'est un survol des aspects que j'aimerais bien aborder avec vous. Et ce soir, donc la mission et son histoire particulière. Et deuxièmement, le bilan de la propagation de l'Évangile jusqu'à nos jours. Donc voilà pour ce soir. Tout le reste est dans le programme que vous avez reçu ou que vous voyez, je pense, en ligne aussi sur le site. Je pensais que vous voyez, d'accord. Donc, vous consultez le site de l'Assemblée chrétienne et vous saurez tout. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait là? Et c'est bon là? Voilà. Vous avez dit mission. C'est quoi mission? Ouf, le voisin. C'est quoi mission? Christian, mission. Première réaction.
Première réaction, c'est ce qu'on donne à quelqu'un, une mission.
On donne une mission à quelqu'un, mais ça peut tout dire encore.
Oui.
Envoyer. Envoyer. Accomplir une tâche. Quelle tâche? Ça dépend de la mission. Et là, la boucle est bouclée. Voilà. Donc, qu'est-ce que la mission? C'est tout ce qu'on entend dire par mission, par la définition. Et c'est un mot assez difficile à comprendre. Ça vient du latin missio, du verbe mittere. Et ce que les langues latines ont fait, leurs traducteurs, ils n'ont pas traduit le mot, mais ils l'ont translittéré. Ça vient du grec apostolein et pempein, ça veut dire envoyer. Et les traducteurs ont utilisé le mot latin, mitere, d'où le mot missio, sans changer cela. Et d'où l'idée, c'est un mot un peu étrange, parce qu'on aurait pu dire envoyer, ou tâche à accomplir, mais les traducteurs n'ont pas jugé bon de le faire. C'est comme le mot apôtre, c'est aussi un mot sacralisé, parce qu'on n'a pas traduit cela. C'est un mot qui veut dire missionnaire, mais on ne dit pas missionnaire, et les missionnaires ne se disent pas apôtres, donc c'est assez compliqué. Dans le langage courant, la mission a un double sens, c'est l'envoi de quelqu'un pour accomplir une certaine tâche, c'est le sens premier, on envoie quelqu'un. On envoie quelqu'un pour faire une course. Ou bien, c'est la tâche même, une mission à accomplir. On parle d'un émissaire, d'une commission, de démissionner. Mais tout dépend de la tâche qu'on vous donne, ce que c'est la mission. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça dépend de celui qui vous envoie. Donc, le mot mission est neutre, n'a pas de contenu. Tout dépend de ce qu'on met dedans. Et alors, dans le langage chrétien, on a mis un contenu très spécifique. On parle de l'envoi également, de certains qu'on appelle missionnaires. En France, vous êtes encore privilégié d'avoir un mot côté catholique et protestant. Dans d'autres langues, il y a deux mots, un côté catholique, un côté protestant. Et donc, selon les cas, vous dites missionnaire ou envoyé. Mais en France, encore, c'est plus simple. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a une tâche d'évangéliser et implanter des églises au loin, dans les champs de mission. C'est ça l'idée qu'on a. Mission veut aussi dire l'ensemble de ses activités. Et on parle de la mission, au sens global du terme. Et un organisme qui encadre de telles activités est appelé une mission, ou une société missionnaire. Mais là, on a donné un contenu précis au mot mission. Où est-ce que vous trouvez le mot mission dans la Bible? Une idée? C'est pas dans la Bible. Ce n'est pas un mot biblique, ni évangélisation d'ailleurs. Ce sont des termes qu'on a inventés pour désigner quelque chose, mais on peut mettre des textes bibliques avec, mais c'est assez aléatoire. Le mot mission date du XVIe siècle, et le mot évangélisation est encore plus jeune. C'est à partir du XVIIIe qu'on va parler d'évangélisation. Dans la Bible, on trouve d'autres termes pour cette affaire-là. On a le mot « témoin », en grec « martyr ». Et c'est encore un mot qu'on n'a pas traduit, mais on a translittéré, et ça a reçu un sens particulier, quelqu'un qui meurt pour sa foi, qui paye de sa vie sa foi en Jésus, un martyr. Mais dans le Nouveau Testament, tous ceux qui témoignent de leur foi sont des martyrs, des témoins. Et ça a une origine dans l'Ancien Testament, c'est Israël, le peuple témoin de la révélation de Dieu. En Ésaïe 44, vous trouvez cette notion. Et face aux autres, Dieu ou divinité, Dieu en appelle à son peuple pour témoigner de ce que lui, c'est le seul Dieu vivant, c'est le seul Dieu qui agit dans l'histoire. Donc, Israël est un témoin à décharge de Dieu. Mais pour être témoin, il faut avoir vécu quelque chose. Il faut avoir vu quelque chose. Il faut avoir entendu quelque chose. Et c'est bien ce que 1 Jean dit, nous sommes témoins de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vécu. Et parfois, ça a mené à des oppositions jusqu'à l'opprobre de la mise à mort. Et donc, on a des martyrs maintenant. Mais ça, c'est un mot très biblique. Un autre mot biblique, quelque chose est tombé de mon écran, c'est l'envoi, ou un envoyé, apostolain, apôtre. Les mots hébreux, ce n'est pas important. Mais l'important, c'est la notion d'envoi. Dieu est un Dieu qui envoie. Qui donne des missions à accomplir. Et Abraham est appelé un apôtre, un envoyé de Dieu. On pourrait dire un missionnaire. Moïse et Aaron sont appelés des apôtres, des envoyés, des missionnaires de Dieu. Les prophètes également. Et l'envoyé, le missionnaire suprême, le missionnaire par excellence, c'est Jésus. À maintes reprises, les gens lui demandent « Est-ce que c'est vous qui êtes envoyé de Dieu ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ?» Et Jésus dit « C'est le Père qui m'a envoyé. » À maintes reprises, c'est un terme majeur, il est le missionnaire par excellence. Et il a envoyé ses disciples dans le monde. « Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie, vous les disciples. » Donc ça, c'est une notion biblique très importante. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font tous les mêmes choses. Parce que dans la Bible, on a plusieurs apôtres. Encore une fois, c'est un mot sacralisé parce qu'on ne l'a pas traduit. Il y a les 12, il y a les autres apôtres dans le Nouveau Testament qui sont des prédicateurs. Il y a aussi une madame apôtre, madame Junia, que certains traducteurs ont converti en homme parce que ça gênait, mais c'est bien une dame qui était parmi les apôtres. Donc, ce n'est pas comme dans la tradition catholique, un ministère réservé aux hommes. Mais ça peuvent être aussi des émissaires qui ont un message particulier ou une mission particulière à accomplir dans une autre église. Pas forcément pour évangéliser, mais pour faire autre chose. Et en Actes 15, en 2 Corinthiens 8, vous avez des envoyés qui ont une mission à accomplir d'une autre nature. Timothée et Tite sont envoyés pour organiser les églises et structurer les églises. Ça aussi, c'est un apôtre. Donc tout cela dépend de ce que celui qui vous envoie vous demande de faire. Éphésiens 4 parle d'un ministère d'apôtre, et selon la plupart des interprètes, ça veut dire un missionnaire. Un missionnaire. Voilà, un apôtre. Donc, tous ceux qui sont missionnaires peuvent se dire apôtres. Bon, ça va caresser notre estime de soi, mais peut-être ça suscite des regards parmi votre entourage, quand vous dites « je suis apôtre ». En parenthèse, dans les milieux charismatiques, on a donné une autre définition d'un apôtre, c'est quelqu'un qui a implanté au moins 5 églises. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai demandé à Daniel Hermenot, qui est un peu l'apôtre des apôtres, de nous expliquer cela, et oui, c'est comme ça. Ok. Bon, selon vos goûts. Évangéliser, là aussi c'est un mot très biblique. Et quelqu'un qui apporte une bonne nouvelle, c'est un mevasseret ou un mevasser, et en arabe, bachar. Bon, vous connaissez des bachars qui ne sont pas très porteurs de bonnes nouvelles, mais ça veut dire quand même apporter une bonne nouvelle. Et la première évangéliste, et c'est, là encore, c'est une femme, c'est en Ésaïe 52, c'est là où ça commence. Et c'est une dame qui parcourt monts et montagnes et qui traverse des vallées pour annoncer une bonne nouvelle à son peuple exilé en Babylone. C'est là où ça commence. 52. C'est un verset que voilà, vous pouvez le lire. Parce que ce n'est pas mon but d'entrer dans les détails. En Luc 4, Jésus se définit comme un évangéliste. Je suis venu, le Seigneur m'a oint de son esprit pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, voilà, apporter une bonne nouvelle, c'est évangéliser. Il y a le ministère d'évangéliste, et on peut même comprendre en Timothée 4 que le pasteur, quelqu'un qui est pasteur, doit faire l'œuvre d'évangéliste. Et puis, il y a le mandat d'évangéliser, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Là, on est dans la terminologie biblique. Mais le mot « mission » n'apparaît pas. Jusqu'au XVIe siècle, bien sûr, l'Église a toujours fait l'annonce de l'Évangile au-delà de ses frontières. Il y a toujours eu des chrétiens qui sont allés à la rencontre d'autres tribus pour annoncer le message du Christ, implanter de nouvelles églises, mais la terminologie était différente de ce que nous utilisons aujourd'hui. Pendant 16 siècles, on parlait de témoignages, de martyrs, ou bien de la prophétie. Le mot prophétie, la prophétie était comprise comme l'annonce de la bonne nouvelle à ceux qui ne croient pas. Ce qui est très biblique d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'est ça ce que les prophètes font, entre autres. On parlait aussi de la prédication apostolique. Et vous connaissez peut-être un peu l'histoire de François d'Assise, qui est allé voir en audience le pape pour recevoir l'autorisation d'être un prédicateur, parce qu'il n'était pas formé à cela et il n'était pas encore prêtre. Et le pape lui a accordé cette grâce et il a fait bon usage. Le ministère de la parole, on parlait de la propagation ou de la diffusion de la foi, la propagation du salut aux nations. On parlait de l'illumination des gentils, ou de la conversion des gentils. Il y a le fameux exemple de Raymond Lull qui, dans le Moyen-Âge, est le premier à partir chez les musulmans pour dialoguer, pour discuter avec eux et aller illuminer ces musulmans de la connaissance du Christ. On parlait de l'annonce de l'évangile, évangéliser ou évangile. On parlait de la plantation de l'Église, de l'expansion de l'Église, au singulier bien sûr, parce qu'à cette époque on croyait qu'il n'y avait qu'une Église. Voilà le vocabulaire utilisé et dans la Bible et puis dans la plupart de notre histoire. Pour trouver les origines du mot mission, vous avez une idée d'où ça vient? Parce que ça vient de quelque part. C'est tombé du ciel chez quelqu'un. Mais c'est qui alors? Non. Non, il a emprunté, mais c'était quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un que nous n'avons pas l'habitude d'invoquer dans nos milieux, mais c'est bien lui, ce sont les jésuites. Et la mission, c'est Ignace de Loyola. C'est là où quelque chose se passe. Et c'est très intéressant, parce que Ignace de Loyola, c'est un soldat, un officier espagnol, qui traverse la France pour combattre les infidèles dans le nord, à Lille et à Roubaix et plus nord encore. Évidemment, le Seigneur n'était pas avec lui parce qu'il est gravement blessé et ça l'amène à l'hôpital. Et dans l'hôpital, il va vivre un temps de bouleversement intérieur et une véritable conversion, de sorte qu'il abandonne ses armes et il va prendre les armes de la parole pour devenir un prédicateur de l'Évangile. On est au XVIe siècle. C'est le temps où Colomb vient de découvrir les Indes. Bon, ce n'était pas vraiment les Indes, mais il pensait cela. Et donc, ce nouveau monde est découvert par les Européens qui découvrent là des tribus, des peuples, avec des cultures et des religions tout autres. Et tout un monde s'ouvre à eux, qui était encloisonné pendant des siècles et des siècles dans l'Europe christianisée, avec tout autour les musulmans qui leur bloquaient la route vers n'importe où. Et là, ils sortent de là et ils découvrent le Nouveau Monde et puis l'Asie et l'Afrique, les côtes de l'Océanie, etc. Et c'est dans ce nouveau contexte historique que le mot « mission » prend une nouvelle signification, à savoir l'action intentionnelle ecclésiale, donc de l'Église, organisée par un personnel spécialisé et en vue de l'évangélisation. C'est une définition de ma collègue Marie-Hélène Robert qui enseigne l'évangélisation nouvelle à Lyon. Bonne définition. C'est une action intentionnelle d'évangéliser, c'est une action conduit par l'Église, organisé dans les ordres, dans des œuvres pontificales, où on va employer un personnel spécialisé qui est éduqué, formé et qui est capable à faire cette œuvre d'évangélisation. Et Ignace de Loyola quand il a vécu ce bouleversement, ça se passe à Paris d'ailleurs. Paris n'est pas un miracle près, parce que c'était le temps où Calvin faisait ses études, et les deux ont fréquenté la même université. On ne sait pas si les deux se sont fréquentés, mais ce sont deux personnes qui ont complètement changé l'Europe. Et ça passe à Paris, donc ne désespérez pas de Paris, tout peut arriver là-bas. Et donc là, il va trouver des copains qui sont interpellés par son exemple, et une douzaine de nobles espagnols vont créer la Societas Jesu, les jésuites. Et ils ont trois objectifs: évangéliser, convertir les païens, implanter l'Église dans les régions non christianisées, et tout cela ad maiorem Dei gloriam. Ça, c'est la fameuse devise jésuite pour la plus grande gloire de Dieu. Parce que l'idée, c'était que Dieu ne reçoit pas encore de gloire dans les régions où il n'est pas adoré. Donc, pour que le Seigneur reçoive plus de gloire, il faut plus de peuples qui l'adorent. Et pour que plus de peuples l'adorent, il faut leur annoncer l'Évangile, etc. Et chaque église implantée, chaque tribu christianisée ajoute à la gloire non seulement des jésuites, mais aussi de Dieu. Et ils font donc une sorte d'ordre monastique. Ils vont créer un ordre religieux avec les trois vœux. Vous connaissez les trois vœux de quoi ? Pauvreté, chasteté, obéissance. Et ils ajoutent un quatrième vœu, parce que bon, on est chez les Espagnols, ça n'est pas assez pour eux. Donc ils vont faire un quatrième vœu: on va obéir sans condition au pape et se mettre directement à sa disposition. Il n'aimait pas les évêques et les curés, etc. C'est le pape qui décide, afin qu'il les envoie évangéliser tel ou tel peuple. Et c'est dans une lettre adressée au pape que Ignace va développer cette idée, cet ordre, cette règle de son ordre qu'il vient de planter en 50-32, où il va dire: notre plus grand désir, c'est que vous, Saint-Père, nous envoyiez, et on place là le mot envoyer, mitere, pour une mission parmi les païens. Et c'est là où commence à apparaître le mot mission, dans le sens particulier où nous le connaissons. Et bon, il avait espéré être envoyé vers les infidèles en Palestine, juifs et musulmans confondus, mais le pape n'a pas exaucé sa prière, mais a jugé bon de les envoyer dans les colonies espagnoles où il y avait tant d'indigènes à convertir. Et là, les jésuites ont rejoint les franciscains, les dominicains, et ainsi a commencé la grande mission catholique, dans laquelle les jésuites ont joué un rôle important. Et leur théologie, leur idée a fait florescer. Il va adopter pour cette action le mot missio. Au Moyen-Âge, ce mot était bien connu dans l'Église. Les théologiens parlaient de la missio de Dieu, la missio Dei. Et ils entendaient là les relations entre les trois personnes de la Trinité. Le Père envoie le Fils. Le Fils et le Père envoient l'Esprit. Ce sont les missiones Dei, des missions de Dieu, ou bien les processions de Dieu. Donc ça se passe à l'intérieur de la Trinité. Qu'est-ce que Ignace va faire? Il va prendre cette idée et il va le prolonger en disant: « Et le Fils envoie l'Église ». Et l'Église envoie les missionnaires. Voilà la mission, nouvelle signification. Et donc, cette nouvelle idée va tout de suite être adoptée et ça devient le mot clé. Et depuis la fin du XVIe siècle, l'Église catholique parle de la mission pour désigner non plus la mission, ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité, mais la mission organisée par l'Église pour envoyer des missionnaires, pour convertir les indigènes et implanter l'Église au singulier, bien sûr. Et voilà, et ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Les jésuites, ils ont vraiment implanté l'Église catholique, y compris des orgues. On a démantelé des orgues en Europe. On les a envoyés, pièces détachées, et on les a remontés dans le jungle de l'Amérique latine. On a enseigné le grégorien aux Indiens, qui chantaient très bien d'ailleurs. Et c'est devenu donc un continent catholique par la ferveur de cette mission. Voilà. Est-ce que vous... Ah, j'ai fait une erreur. Il faut que j'enlève cela. Et puis... que je revienne. Voilà. Bon, c'est pas une photo de Saint-Ignace, mais... Teach us to give and not count the cost. Ça veut dire quoi en français? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le traduire? And not count the cost. Et ne pas compter ce que cela coûte. Voilà. Pour former ces missionnaires, c'était quand même un militaire, Ignace a développé une formation spirituelle qui est encore très utilisée aujourd'hui. Est-ce que vous avez jamais entendu des exercices spirituels? C'était Ignace qui a développé cela pour former ces missionnaires qui allaient rencontrer des difficultés énormes, des bêtes sauvages et des indigènes et je ne sais pas quoi. Donc il fallait avoir une discipline plus que militaire. Et pour cela, il a développé des disciplines spirituelles. Voilà. Qui sont encore très, très, très en vogue. Et c'est intéressant que dans le monde protestant, ils sont de plus en plus suivis. Ça, c'est intéressant. Et puis, ils vont donc former des missionnaires. Curieusement, lui n'est jamais parti. Mais l'un de ses 12 complices, François ou Francis Xavier, c'est le premier missionnaire. Et bon, il va vite parce que... il veut convertir le monde entier. Donc, il a parcouru 4 continents. Et voilà, c'est une histoire très, 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 très impressionnante de ce qu'il faisait. Il est allé en Inde, il est allé en Chine, au Japon, et il voulait encore aller aux Amériques, mais voilà, il est mort avant de réaliser son rêve. Et ça s'appelait donc mission. Cette nouvelle terminologie fut vite adoptée par l'Église catholique romaine et par les protestants. Plus tard. Et depuis cette époque, on parle de la mission. On distingue parfois la mission outre-mer de la mission intérieure. Et en général, on considère mission plutôt une affaire outre-mer. Ce qui est encore vrai aujourd'hui, un missionnaire part. Un missionnaire qui reste ici, ce n'est pas vrai un missionnaire. Est-ce que c'est un missionnaire? Il faut quand même partir. Parce qu'est-ce qu'on va mettre dans la lettre de nouvelles? C'est ailleurs les catholiques qui ont inventé la lettre de nouvelles et les réunions de prière. Et les protestants ont ajouté la collecte missionnaire. La mission intérieure était aussi appelée évangélisation. Mais en milieu catholique, mission veut encore dire évangélisation, on ne distingue pas. C'est en milieu protestant où on distingue souvent mission, loin, évangélisation, auprès. La France a joué un grand rôle, et dans la mission catholique, et dans la mission protestante. C'est très étonnant. Dans la mission catholique, la France a livré, qu'est-ce qu'on dit, a envoyé le plus de missionnaires. La plus grande proportion de missionnaires catholiques étaient français. Et ils passaient tous presque par Paris. Et côté protestant, c'était aussi par Paris que ça se passait. On n'avait pas une grande église protestante en France, mais on avait beaucoup de colonies. Il y avait beaucoup d'indigènes et il y avait beaucoup de peuples que les Américains, les Anglais aimaient bien annoncer l'Évangile. Mais pour y aller, il fallait passer par Paris, par les soi-disant missions étrangères de Paris. Et aujourd'hui encore, il y a le centre DEFAP, 14e arrondissement qui est créé avec une chapelle, avec une maison de mission, avec une formation, avec une école, qui est maintenant école théologique, où les anglophones et les germanophones qui voulaient œuvrer dans les colonies françaises passaient pour s'initier aux Français et puis connaître un peu l'administration française, parce que déjà à l'époque ce n'était pas une mince affaire. Et aujourd'hui encore, ça existe au milieu de Paris. C'est une structure qui est encore dédiée à la mission. Et tous ceux qui ont un lien avec la mission peuvent y loger à titre très bon marché. Voilà. Parce que c'est une œuvre, et là on rencontre encore des gens du monde entier. Ça a commencé au 19e. Donc la France a été une cheville ouvrière, on va dire, Paris notamment, dans la mission. Voilà. J'aime bien raconter cela parce qu'en France, on a parfois une idée de Paris, ville de toutes les révolutions, mais il y a aussi autre chose qui se sont passées là-bas. Et le passage clé, ou les passages clés, c'est Matthieu 28, 19. Allez dans le monde entier, et par cœur, qu'est-ce que ça dit? Parce que je n'ai pas traduit là. Hein. Allez dans le monde entier. Et ensuite, faites de toutes les nations des disciples ou mes disciples? Ok. Allez. Ah, là, je vous pose une colle. Hein. Ah, alors. Bon, les pasteurs sont présents, donc ils vont noter. Hein, ceux qui ne savent pas réciter ce verset seront rappelés à l'ordre après dimanche prochain, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Donc. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les dans le nom Père, Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur tout. Ah, mais ah oui, vous trichez, vous l'avez. Ah oui, vous y avez là. Okay. Très bien, ça va. Et enseignez-leur, voilà. Donc, faire des disciples, je vais revenir là-dessus parce que le verbe faire des disciples n'apparaît pas dans ce verset. On peut aussi traduire enseigner toutes les nations. Et les textes parallèles sont Marc 16, annoncer la bonne nouvelle dans toute la création, Luc 24, annoncer la repentance à toutes les nations, acte 1-8, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. Et on appelle ces versets ensemble le mandat d'évangéliser. Et dans le monde évangélique, on parle du grand mandat, the Great Commission, que j'ai fait l'erreur de traduire cela en grande commission, mais ce n'était pas exactement ce que je voulais dire. Voilà. Mais vous comprenez quand même, le grand mandat, hein, le grand mandat. Et c'est ça la clé de voûte de cette idée de la mission introduite par les jésuites, reprise par les protestants et les évangéliques, et jusqu'à nos jours, c'est une idée, la mission c'est Matthieu 28. Et donc, selon vos interprétations de ce verset, vous allez décrire la mission. Mais en gros, ça revient à évangéliser et implanter des églises. Donc, d'où cette idée. Ça va jusque-là? Vous êtes encore là? Oui? Oui? Ok. Pas de questions? Oui, vous. Est-ce que vous serez des témoins?
Est-ce que c'est marqué alors que vous serez des martyrs?
Oui. Ça vous choque? Il faut relire maintenant. Revoir la copie. Oui. C'est dans les petites lettres, ça, avec tous les contrats. On s'y lit, après on va lire. Tiens, 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 si j'avais su. Mais vous serez mes martyrs. Oui. Et comme certains martyrs ont payé de leur vie leur témoignage, on dit un martyr est quelqu'un qui donne sa vie. Comme Sainte Perpétue, par exemple, ici à Nîmes. Ou Boudille. Non, Boudille, c'était le martyr de Nîmes. Sainte Perpétue, c'est la martyre de Tunisie. Ok. Autre question ? Ça va ? Oui ? Un prophète
laïque.
Laïque.
Oui, ça pourrait exister, c'est pas par définition le mot posé.
Dans quel cadre
Pour être prophète, il faut être croyant, et quand on est laïque, on est un croyant.
Ce qu'ils veulent dire par laïque, c'est quelqu'un qui n'est pas pasteur, qui ne fait pas partie d'un corps religieux établi, ou ecclésial, voilà.
Oui, c'est peut-être ça. Mais il faudrait voir un peu dans le contexte.
Dans l'Église catholique, on peut être, par exemple, les diacres de l'Église catholique sont des laïcs.
Oui. Ouais.
Ce sont des gens qui ne sont pas du corps religieux établi.
Ok, ouais, d'autres questions ? Ça va ? On continue ? Bien. La mission a une histoire particulière. Maintenant, je le mets entre guillemets, parce que maintenant, on a vu, cette idée de la mission est née à une certaine époque, dans un certain contexte, et qui a pris une signification particulière. Cette mission-là a une histoire particulière, parce qu'elle est étroitement liée au christianisme européen et à l'expansion des puissances européennes dans d'autres continents. La mission, comme nous la connaissons, allait de pair avec les voyages de découverte, l'implantation des couloirs de commerce, des colonies, etc. C'est une histoire compliquée. Il ne faut pas dire qu'ils ont été complices du colonialisme. Parfois, ils ont été critiques. Mais sous la couverture de la présence militaire, commerciale, administrative européenne, les missionnaires pouvaient faire leur travail. Et là, le monde anglo-saxon était plus souple, chacun pour soi. Le monde francophone était plus jacobin déjà, parce qu'il fallait tout diriger. Donc on coupait les colonies en secteurs, et les pentecôtistes ici, et les baptistes là-bas, et les catholiques là-bas, et tout ça. Comme ça, c'était bien en ordre. Mais c'était en gros ce qui se passait. Et donc c'était depuis l'Europe que les gens partaient pour aller en dehors de l'Europe pour annoncer. Il y a d'abord la mission catholique qui se faisait par les ordres et les œuvres pontificales. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est... en gros, on peut dire que ça a été vraiment une entreprise étonnante. Pendant 2 siècles, ils ont travaillé sans que les protestants s'activent. Les protestants n'étaient pas pour la mission. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un constat. Même les pasteurs qui allaient avec les bateaux britanniques, anglais ou hollandais ou allemands ou danois, avaient consigne de limiter leurs soins pastoraux aux seuls Européens à bord et de se garder de contacter les indigènes parce que ça pourrait nuire au commerce. Voilà. Donc, il y a quelques exceptions qui ont quand même transgressé les règles et qui sont devenus les premiers missionnaires protestants. Mais en règle générale, les protestants ne faisaient pas de la mission. Il fallait attendre 2 siècles. Depuis le 18e siècle, la mission protestante va commencer et va tout de suite prendre un essor et se déployer dans le monde entier. Et en même temps, la mission orthodoxe, on l'oublie très souvent, mais la mission orthodoxe, depuis le XVIIIe siècle, a été aussi importante presque parce que les orthodoxes allaient où l'Empire russe se répandait. Donc l'Empire russe allait tout au long de l'Asie centrale, l'Asie du Nord, jusqu'en Alaska. Les premiers chrétiens en Alaska étaient des orthodoxes convertis par des missionnaires russes. Et tout cela va donner lieu à la grande époque missionnaire au 19e et 20e siècle, la grande époque missionnaire. Et c'est un mouvement qui va de l'ouest vers le reste, from the west to the rest. La base d'envoi, c'est l'Europe et ensuite aussi d'autres pays à culture européenne, et le champ de mission sont tous les autres. Et encore, c'est une idée très enracinée Et aujourd'hui encore, vous pouvez en voir les traces, combien la mission a été marquée par ce modèle-là. C'est depuis le monde christianisé qu'on part évangéliser les autres. Et un missionnaire, c'est quelqu'un qui fait ça. Et quand il ne fait pas ça, on se pose des questions. Mais on n'a pas encore intériorisé un mouvement inverse qui se fait déjà, que la mission, c'est un non-européen qui vient ici pour essayer de parler aux Européens. Ce n'est pas facile. Et la mission a aussi une forte empreinte de culture occidentale. Vous allez en Afrique et si vous voulez entendre les vieux cantiques de réveil que nos églises ont complètement oubliés et qui sont tombés dans les oubliettes partout dans les églises, vous allez en Afrique et vous les entendez à merveille, chanter par toutes les églises parce que les missionnaires au 19e leur avaient appris cela, donc il faut continuer cela. Et on continue à chanter ces cantiques et ça me fait toujours plaisir de les entendre. Parce qu'on met un peu de percussion avec, un peu de voilà, culture africaine avec. Mais ce sont les vieux cantiques que mon grand-père m'a déjà appris et que là-bas, on perpétue avec une fidélité sans faille. Et puis, il faut aller avec une Bible à l'église. Là aussi, c'est très important parce qu'autrefois, un pasteur, c'était quelqu'un qui avait la plus grande Bible dans toute l'église. Et le pasteur, c'est quelqu'un qui, voilà, qui vient là... Et les Bibles de chair étaient des constructions énormes. Voilà. Donc, si vous voulez avoir une impression, vous venez avec la Bible. Si vous savez lire, ça, ce n'est pas la question. Donc, parfois, on vient avec une Bible sans savoir lire. Mais bon, c'est pas parce qu'il fallait, parce que le missionnaire avait montré cet exemple. Et donc, cette culture occidentale, maintenant, on ne le fait plus, mais il y a eu aussi une offensive culturelle qui faisait que le christianisme allait avec un style de vie européen, avec une économie, une culture de travail, avec de la monnaie, avec une administration, avec une vie de famille, avec voilà, tout ce qui allait, vêtements, etc. Voilà. Ça a changé, mais cette grande époque missionnaire avait cette empreinte de culture occidentale. Et voilà... il fallait quand même équilibrer mon propos. J'ai peut-être fait trop d'honneur à Ignace. Donc voilà, notre Ignace, c'est William Carey. William Carey, vous avez entendu? Qui n'a jamais entendu le nom William Carey? William Carey. William Carey. William Carey. Donc il y a quelques... Okay. William Carey, c'est un cordonnier anglais. Un baptiste. J'ajoute cela pour ceux qui aiment le mot baptiste. Et un cordonnier têtu comme une âne. Voilà. Ça, ce n'est pas très baptiste d'ailleurs. Mais bon, il avait les deux qualités. Et donc, il est converti après une jeunesse dont on rapporte pas mal de bêtises. Il s'est converti et se met dans la tête de partir en mission dans les colonies en Inde. Donc il va voir le pasteur. Et il va voir le pasteur, et ce jeune homme qui, voilà, il était apprenti dans la boutique de sa, dans l'atelier de son père, il s'approche de ce ministre de la parole en disant, et devant le conseil, avec des anciens, « C'est ça ce que j'ai à cœur ». Et bon, la réponse était, jeune homme, si Dieu veut convertir les Indiens, il va le faire, mais il n'a pas besoin de vous. Voilà, donc ça a été la réponse calviniste. Dans la providence de Dieu, c'est Dieu qui fait cela. C'est pour dire que les évangéliques, les protestants, n'avaient pas de vision pour la mission. Mais il était inspiré par les quelques-uns qui avaient commencé à ouvrir les yeux pour la mission. Et c'est lui qui va donc faire une recherche, c'est très étonnant, il va recueillir toutes les données sur le nombre de croyants, le nombre de hindous, de bouddhistes, de musulmans en Inde, rapportés au nombre de chrétiens, etc., les moyens financiers. Et il va écrire un livre avec un titre qui est plus grand que l'écran, mais qu'on appelle commodément « The Enquiry ».« The Enquiry ». Et là, il va lancer un appel à tous les croyants en disant là, comme le grand mandat en Matthieu 28 nous concerne, nous tous. Et si vous n'êtes pas de ceux qui vont partir, parce que c'est ça ce qu'il faut, et si par malheur vous ne partez pas vous-même, vous allez soutenir tous ceux qui partent. Et il va créer une structure, et c'est ça la nouveauté, en dehors de l'Église, parce qu'il a bien compris, si on doit attendre les pasteurs et les anciens de l'Église, ça va durer des siècles et on n'arrive jamais. Donc il faut créer une autre structure selon le modèle de la société commerciale anglaise, avec des associés, des actionnaires, qui vont mettre de leur argent dedans, investir cela dans l'œuvre missionnaire pour payer les frais de voyage, les frais de formation, les frais d'hébergement et tous les frais que ça incombe pour mettre des missionnaires en Inde. Et là est née la société missionnaire. C'est le pendant des ordres religieux en milieu catholique. William Carey, donc, c'est vraiment un pionnier. Mais ce n'est pas lui qui a inventé la mission protestante. Donc, comme j'ai déjà dit, la réforme n'avait pas de vision pour la mission. Ils avaient d'autres soucis, bien sûr. Mais ça se remarque encore aujourd'hui. Vous allez dans le milieu réformé, ce n'est pas facile de parler mission. C'est comme si ça ne fait pas encore partie de l'ADN. Quelques exceptions, bien sûr. Il fallait attendre les mouvements de réveil qui vont susciter un intérêt pour évangéliser. Ah, j'ai fait une erreur. Pour évangéliser auprès et au loin. Excusez-moi. Okay. Et là, le nom d'un Allemand, Zinzendorf, est devenu célèbre parce que Zinzendorf va faire quelque chose que les Allemands aiment faire aujourd'hui encore, contrairement aux Français, c'est accueillir les immigrés. Ça, les Allemands savent le faire. Et Zinzendorf était comme Angela Merkel, il disait, bon, venez, vous tous, nous tous. Voilà. Tandis que les autres pays disaient non, ces Moraves persécutés pour leur foi n'avaient d'autre accueil que chez M. Zinzendorf, le comte de Zinzendorf, qui ouvrait son domaine. Et là, ils ont créé une colonie des Moraves, et ça s'appelait Herrnhut, sous la protection du Seigneur. Et ces Moraves vont vivre un réveil, mais très impressionnant, 1727. Le Saint-Esprit va prendre, les amener à une conversion très intense, à une réconciliation, et c'est un réveil qui éclate, ils vont créer des cellules, et Zinzendorf commence à envoyer des Moraves dans des missions, aussi bien dans les églises pour apporter le message de réveil et renouveau dans le Saint-Esprit, et dans les pays où les gens ne connaissent pas encore l'Évangile. Et les Moraves sont les premiers protestants à partir en mission. Et c'est de eux que plus tard, William Carey a eu cette même idée. Les Moraves, ils ont, dans une dizaine d'années, avec peu de moyens, ils partaient sans rien, à la fortune, vraiment à la fortune. En Groenland, il faut avoir l'audace. Hein, chez les Esquimaux, ils sont allés dans les Caraïbes, l'Afrique du Sud, et ils ont même annoncé l'Évangile à des tribus qui n'étaient pas considérées comme des êtres humains, les Hottentots, les Crozats. Et pour eux, c'était des êtres humains. Et quand ils ont vu se convertir quelques de ces Hottentots, ils ont demandé en Afrique du Sud aux pasteurs réformés sur place de bien vouloir les baptiser, mais selon les pasteurs, ce n'étaient pas des êtres humains parce que leur langue était tellement étrange qu'ils ont refusé. Donc les Moraves ont fini par les baptiser eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'est née les églises de Herrnhut, les Moraves. Et c'est là où commence, et c'est toujours, quand il y a un réveil, ça va susciter un intérêt pour l'évangélisation, et c'est systématique. Et là, il y a donc William Carey, qui lui connaît un réveil personnel, qui donc explique Matthieu 28 en disant, c'est pour nous tous, il faut tous prendre part à Matthieu 28, il faut partir, la première question n'est pas, est-ce que je dois partir? Non. Où est-ce que je dois partir? Et si la réponse est quand même négative, vous avez déjà la réponse sur la votre deuxième question, qu'est-ce que je dois faire alors? C'est prier pour ceux qui partent et donner. Et il va donc créer cette nouvelle structure, la société missionnaire, qui devient, l'outil principal pour déclencher la mission protestante, très souvent contre ou en parallèle des églises, et c'est plus tard que les églises protestantes vont créer leur propre société parallèle. Hudson Taylor, encore un Britannique, aussi têtu que William Carey, il voulait évangéliser en Chine. L'organisme missionnaire qui était en train de faire le travail là-bas a dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas encore partir parce que vous n'avez pas encore terminé vos études de médecine. Ah bon, mais Hudson Taylor dit, mais moi j'ai hâte d'y aller. Ah non, mais il faut terminer les études. Bon, dans ce cas-là, j'ai créé mon propre organisme. Donc ça, c'est toujours une réponse très évangélique hein, quand ça ne marche pas. Et le principe, c'est qu'on ne va pas demander d'argent, Dieu va pourvoir. Ce sont les sociétés basées sur la foi qui sont nées avec Hudson Taylor. Et on va créer des instituts bibliques, on va traduire la Bible dans les langues vernaculaires. C'est ce que les catholiques n'ont-ils pas été très forts à faire. On va créer des écoles, parce que pour lire la Bible, il faut bien savoir lire. Et on va créer des hôpitaux, parce que Jésus avait dit qu'il faut guérir les malades. Donc ils ont fait cela aussi. Voilà pour cette grande mission, et ça aboutit à un grand événement à Edinburgh en 2010. La mission est à son apogée et une conférence aura lieu, c'est la première conférence missionnaire mondiale où on va dresser un bilan et on va identifier les défis pour les années à suivre. Et leur vision était d'évangéliser le reste du monde dans une génération. 1910, John Mott, l'Américain qui présidait cette conférence, un optimisme. Ah, excusez-moi, oui, c'est en 2010 qu'il y a eu des commémorations, voilà. Ah oui, vous êtes bien réveillé encore. Ça c'est bien, ça va, parce qu'il commençait à me douter, mais ça va encore. Et curieusement, c'est là où est né le mouvement œcuménique, le Conseil des Églises œcuméniques, comme par hasard. Est-ce que vous avez des questions? La genèse de la mission comme nous la connaissons aujourd'hui. D'où ça vient et comment ça se développe? Oui. Ou le remarque, allez-y, hein. Allez-y. Bon, je pense que vous aurez entendu parler de toutes ces personnes et de tous ces événements de part et là, mais maintenant vous avez un ensemble. Une vue d'ensemble. À la fac, c'est tout un cours de je ne sais pas combien d'heures de classe, mais en gros, c'est ça. Et comme toutes les présentations consistent en trois parties, troisième partie, où en sommes-nous? Qu'est-ce que j'ai fait là? Où en sommes-nous? Le mouvement missionnaire va donc continuer tout au long du XXe siècle et on peut dresser un double bilan de ce grand mouvement missionnaire qui a commencé donc avec Ignace, les catholiques, puis les protestants leur ont emboîté le pas et ainsi est née la grande époque missionnaire dans le monde entier, etc. On peut dresser un double bilan. On peut dresser un bilan très positif parce que le christianisme est implanté partout dans le monde. C'est incroyable, mais ça s'est fait dans quelques siècles. Ça a été encore dans l'histoire de l'humanité, des religions, on n'a jamais connu ça sans pareil. Même les invasions musulmanes n'ont pas amené à cela, parce que les musulmans n'avaient pas l'habitude de convertir toute la population. Mais là, il y a un mouvement d'en bas qui va, sans beaucoup de moyens, s'approcher d'autres peuples. Mais quand on voit de plus loin, de plus près, on voit quelque chose de très significatif, c'est-à-dire la réussite du christianisme se fait parmi les peuples animistes, polythéistes. Et pour eux, le christianisme est accueilli comme un progrès religieux, parce qu'on n'a plus de divinité, plus d'esprit dans les arbres, et j'y passe. On n'a qu'un seul Dieu, ça c'est simple, ça c'est un progrès, c'est le Dieu créateur qu'on peut maintenant connaître par Jésus-Christ. Mais quelle avancée ! Avant, on avait peur d'un chêne parce qu'il y avait une divinité germanique qui habitait dedans, on pensait. Et là, arrive Boniface, il coupe le chêne et il n'y a pas la tonnerre qui tombe du ciel et on est libéré de toute cette croyance. Voilà. Donc, ils sont convertis sur le coup. C'est un progrès. Et aussi, culturellement, c'est un progrès. Mais à la fois, quand on regarde les peuples qui appartiennent à les grandes religions mondiales, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme et aussi les traditions japonaises, le shintoïsme, le taoïsme, etc., et le judaïsme également, là, le succès ou le résultat est beaucoup plus maigre. Ces populations sont encore en majorité non pénétrées par l'Évangile. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là où la réussite n'a pas été aussi grande. Et c'est un peu l'inverse. Donc c'est le côté pile. Il y a le côté face, il y a le côté pile. Les efforts n'ont pas manqué. Vous lisez l'histoire de la mission en Afrique du Nord. C'est une épopée sans pareil. Mais quand même, ça reste encore assez maigre comparé à l'Afrique subsaharienne. En Asie, c'est pareil. Sauf qu'il y a des tribus dans ces régions dominées par l'islam ou l'hindouisme qui étaient à porte-à-faux avec la majorité, qui étaient discriminées ou marginalisées. Et là, l'Évangile a plus d'accueil. Vous avez l'exemple en Algérie, chez les Kabyles. Oui, c'est les Berbères. Parce que pour eux, l'islam est venu d'un oppresseur. En Inde, il y a aussi des tribus qui sont devenues chrétiens parce qu'ils ont souffert sous une domination musulmane. Mais en général, ces populations ne considèrent pas que le christianisme est un progrès, bien au contraire. Donc, la mission a beaucoup plus de mal. Donc, c'est ça le côté P. Et toutes ces populations se concentrent dans une région du monde qui va du Maroc jusqu'en Chine, qu'on appelle la fenêtre 1040. J'y reviendrai. Donc, le bilan est double, pour être très concret. Et puis, il y a les nouveaux défis, parce qu'on n'a jamais fini d'évangéliser, vous le savez, l'évangélisation, c'est un travail dont on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais terminé. Il faut toujours continuer à évangéliser, même dans ses propres pays, et c'est là où ça ne va plus, parce que, justement, dans la bastion du christianisme, il y a les nouveaux défis des populations sécularisées. Et sécularisées, ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de quelque religion que ce soit. Et c'est un vrai défi, parce que la mission traditionnelle avait toujours affaire à des gens qui avaient une religion. Il fallait leur montrer qui est le vrai Dieu et comment être réconcilié avec le Dieu. Tout le monde croyait en Dieu, ou en un Dieu, ou en des dieux. Donc on était sur une base commune. Là, on communique. Mais vous parlez à quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, qui ne voit pas l'intérêt d'une religion, vous avez beaucoup de mal à faire comprendre l'évangile, parce que péché, réconcilié, quelqu'un mort pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose quand on n'a pas de vision religieuse du monde. Et ça, c'est vraiment un nouveau défi dans la mission et à laquelle on est très mal attelé. Et puis, dans la société post-christianisée, on va considérer que le christianisme, c'est du passé. Et là, vous avez encore une grande différence avec le reste du monde. Dans le reste du monde, le christianisme est très souvent considéré comme quelque chose de nouveau. En Afrique, le christianisme, pour beaucoup de gens, n'a pas encore 100 ans. C'est assez récent. Ici, on a fait 18 ans, 18 siècles, et avec quel bilan? Les gens sont fatigués, on ne veut plus de ça. Donc, vous représentez un message qui fait vieux yeux, qui a un bilan assez mitigé, et donc cela pèse sur l'Église. Et puis, il y a les mouvements, les nouveaux mouvements religieux qui mélangent un peu de tout à leur propre guise, religion à la carte, sont des nouveaux défis. Et j'aimerais bien voir la situation, cette situation actuelle. Et pour cela, j'ai, pour vous divertir, parce que bon, il fait un peu tard, il y a encore 10 minutes, des images. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu la situation actuelle, où en sommes-nous, à partir des cartes. Et je vous préviens déjà, quand on va compter les chrétiens, ça c'est un travail diabolique presque, parce que c'est très très difficile. C'est très difficile. Ok. Edinburgh 1910, oui, j'ai corrigé cela. Oui. Ok. Rapidement, je vous montre quelques cartes parce que ça va visualiser les choses. Le christianisme et d'autres religions dans le monde aujourd'hui. Voilà une carte qui montre un peu le progrès ou l'évolution depuis 1910. 1910, vous êtes dans la carte, sur la carte dans le coin gauche pour vous. Et vous voyez, plus c'est bleu, plus c'est chrétien. Et on est encore dans le monde européen, avec l'Empire russe vers l'Est et les Amériques à l'Ouest, qui sont une extension de l'Europe, quelque part. Et puis, ça commence à progresser en Afrique et en Indonésie et les pays limitrophes.
C'est quoi la légende?
La légende, c'est Todd Johnson, Kenneth Ross, Atlas of Global Christianity 2009. Donc, c'est une source qui fait autorité. Voilà, donc, pour vous rassurer, je n'ai pas dessiné cela un après-midi moi-même, mais que ça vient de quelque part. Et donc, en 2010, vous avez tout un développement, et vous voyez que le bleu domine partout maintenant, donc il y a une progression nette partout, mais ça devient très foncé également dans des contrées au sud. Donc, l'Afrique va être très bleue maintenant, et aussi la Chine, et même l'Asie centrale et l'Inde, ça devient assez christianisé. Et vous voyez, même dans les pays musulmans autour de la Méditerranée, il y a des communautés chrétiennes qui sont quand même importantes. Donc, on voit un développement dans un siècle qui est très clair. Oui ? Quand on voit la répartition des chrétiens en nombre... Ah, question. Ok. Plus fort pour que tout le monde puisse entendre. Oui, l'islam avance et le christianisme avance et c'est la concurrence. Ouais. Mais la différence entre l'islam et le christianisme en Afrique, c'est que l'islam opère d'en haut, avec de l'argent, avec l'implantation des mosquées, avec la pression d'en haut. Et le christianisme progresse d'en bas. C'est un mouvement populaire. Et donc, je ne crains pas pour l'avenir.
En Chine,
et
c'était
en Corée.
Oui. C'était très
évangélique. Oui, la Corée est marquée là, hein. C'est là. En 1910, la Corée était encore presque pas touchée par le christianisme. En 2010, il y a un tiers protestant, un tiers catholique et un tiers autre. Donc, c'est un pays qui est très christianisé et qui est maintenant presque le premier pays à envoyer des missionnaires dans le monde entier, la Corée du Sud.
On dit que les Chinois sont colonisés par les peuples russes.
Non.
Non.
Les Chinois ont été dominés au 19e par les Européens et puis par les Japonais. Mais pas par les Russes. Non, les Russes n'ont pas réussi. Ils ont voulu. Ok, je passe. Bon, je ne peux pas faire toutes les cartes. Là, il y a la répartition des chrétiens en nombre. Donc, où est-ce qu'il y a des concentrations en nombre? Et là, on voit le Brésil, par exemple. On voit aussi la Russie, parce que là, tout le monde est orthodoxe, donc chrétien. C'est facile à dire. L'Europe reste importante, mais il y a le sud de la Nigeria et le Congo. Le Grand Congo, c'est vraiment un bastion du christianisme aujourd'hui. Et l'Afrique du Sud et la Chine, là, on ne sait pas, parce que des chiffres varient énormément. Mais certains disent 80 millions de chrétiens, 100 millions, j'ai entendu des chiffres comme ça.
Voilà. C'est en nombre ou c'est
en nombre? Un nombre, oui. Oui. C'est très important, hein? C'est très important en Chine. Mais comme c'est très souvent illégal, c'est difficile à compter. Nombre de chrétiens. Bon. Ici, c'est peut-être aussi une carte intéressante qui dit le pourcentage par pays. Donc il y a les... qu'est-ce qu'on dit C'est un évangélique qui a fait cela, donc bleu foncé, c'est évangélique, donc les vrais, hein, on va dire. Et puis bleu clair sont des autres chrétiens, douteux. Et puis noir, c'est vraiment noir, c'est le nom chrétien. Ouais. Ah oui. Mais là, vous voyez que les États-Unis, ça reste un pays. Plus, quand le noir est très petit, ça veut dire que c'est un pays très christianisé. Mais en nombre absolu, il y a plus de chrétiens en Chine qu'en Europe occidentale. Donc c'est relatif, mais c'est rapporté à la population. Idem pour l'Inde, où il y a des dizaines de millions de chrétiens, mais ça fait une minorité quand même. Mais dans les pays en Amérique, c'est largement chrétien. Et en Afrique, c'est aussi la majorité, l'Afrique subsaharienne. Et l'Europe aussi, c'est encore la majorité chrétienne. Pourcentage de la population. Ici, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le centre de gravité du christianisme mondial se déplace vers le sud. Quand on répartit les chrétiens et on va voir sur quelle latitude ils se trouvent, et on va trouver le centre de gravité, en 1910, ce centre de gravité se trouvait à Nîmes, hein, donc vous voyez, à Barcelone, hein, peu importe, un peu, pas très loin. Maintenant, c'est dans le Sahara. Il y a le djihadisme maintenant. Et c'est là le centre de gravité. Géographiquement. Mais ça veut dire que la plupart des chrétiens habitent en dessus de ce périmètre. Donc il y a plus de chrétiens au sud qu'au nord. Donc mathématiquement, s'il y avait besoin d'une mission, elle devrait se faire du reste vers l'ouest. Mathématiquement, hein, c'est la logique. Donc il ne fallait pas y aller, il fallait les inviter ici.
Pourquoi c'est du l'est vers l'ouest?
Le reste, donc, c'est Asie, le Sud, etc., vers l'Occident. Voilà. From the rest to the west. Contrairement à ce que ça a été le cas pendant cette grande épopée missionnaire, c'était le mouvement de l'Ouest vers le reste. Mais le reste est maintenant plus chrétien que l'Ouest, donc les choses ont bien changé. C'est quoi le blanc? Le blanc, oui, ça veut dire que là, il y a le moins de chrétiens, soit parce qu'il n'y a pas de population, comme dans le Sahara, soit parce qu'il y a d'autres religions qui ne sont pas atteintes, ou l'évangile n'a pas pénétré. Ah oui. Mais le résultat, entre guillemets, n'est pas brillant. J'ai une tante qui a passé toute sa vie dans les Émirats arabes. Elle n'a pas vu une personne venir à la foi, sacrifier toute une vie pour cela, 40 ans. Voilà. C'est très impressionnant, mais sur la carte, on ne voit rien. Au ciel, peut-être, oui, mais ici, non. Sur mes cartes, non. Et en Asie centrale, ces peuples ont été chrétiens. Maintenant, ils sont redevenus bouddhistes ou musulmans. Donc, oui, il y a eu des efforts partout. Tous les pays ont été touchés par la mission. Au Moyen-Orient, oui. Ouais. À l'époque, maintenant ça ne s'appelle plus, mais il y avait à Jérusalem, ça s'appelait la rue des prophètes, et là tous les missionnaires habitaient, mais le nombre de juifs venus à la foi était, on comptait sur les doigts d'une main. Voilà. Donc, il y a bien eu évangélisation, mais ça ne s'est pas traduit par une croissance de l'Église. Contrairement au Sud, où il y a des peuples plutôt animistes, polythéistes, ou en Amérique, idem, qui ont plutôt accueilli l'Évangile. Voilà. Largeur des pays, voilà, c'est pour s'amuser, mais bon. Un nombre de chrétiens, quand on crée une carte du monde comme ça, il y a des gens qui s'amusent pour faire comme ça, on crée la largeur du pays en fonction du nombre de chrétiens. Et là, les États-Unis restent très, très grands, l'Alaska aussi, mais vous voyez, l'Afrique du Nord disparaît. C'est une carte assez... Et ce vert-là, à l'est, là, ça c'est la Corée du Sud. C'est grand d'une région française. Voilà. Okay. Pourcentage d'évangéliques. Bon, c'est notre frère évangélique qui a fait cela. Maintenant, c'est le vert qui domine, mais plus le vert est foncé, plus il y a d'évangéliques. Et on voit que l'Afrique est largement évangélique. Et même les églises catholiques ont une spiritualité presque évangélique là-bas. Ok, ça j'y passe. Croissance annuelle par catégorie en 2010. Ça c'est peut-être intéressant pour vous de voir. Tous les chrétiens enregistrés. La croissance de la population mondiale est autour de 1,3% par an. Donc, en nombre total, les chrétiens ont une croissance égale à la croissance de la population mondiale. Mais là, on parle de tous ceux qui sont considérés chrétiens, qui sont dans les statistiques officielles. Donc, 66% des Français, et 75% des Allemands, etc. Mais quand on va dans les catégories, quand on voit les évangéliques, la croissance est beaucoup plus importante, et la croissance est vraiment très importante chez les églises pentecôtisantes, le mouvement charismatique et les églises indépendantes. Qu'on trouve partout dans le monde et qui ont parfois une théologie un peu, ok, mais bon, eux ils connaissent une grande croissance. Et maintenant on dit que les pentecôtistes sont 400 millions et dans une génération ils seront 800 millions. Donc c'est incroyable, c'est une croissance phénoménale. Et on le voit partout dans le monde sauf en Europe. En Europe occidentale. C'est la seule région où ces catégories pentecôtisantes charismatiques, cette catégorie ne connaît pas de croissance majeure. Voilà. Église indépendante, pentecôtisée, voilà. Okay. Voilà, ça c'est une autre la tarte religieuse du monde. Bleu, c'est les chrétiens. Rouge, les musulmans. Et là, vous apprenez un peu de néerlandais et d'anglais, parce que je n'ai pas tout traduit. Mais vous déchiffrez bien ce que ça veut dire. Donc, il y a 2,3 milliards. Excusez-moi. Ah oui, vous dites camembert, ah oui. Et en Belgique, on dit tarte. Parce que là, on n'aime pas le camembert. Et bon. Et donc, le camembert est assez bleu, hein, ça c'est vrai. Assez bleu. Donc, voilà les chiffres absolus sur une population mondiale de 7 milliards. Un tiers chrétien, 15%, 20% musulmans, hindous, non religieux, bouddhistes, chinois, religion ethnique, les athéistes. C'est intéressant, leur nombre ne croît pas, reste stable depuis déjà des dizaines d'années, presque un siècle, ça reste autour de 13% en Europe et pour le reste du monde, pas beaucoup. Et le reste. Et dans le camembert suivant, vous avez encore plus clairement une répartition en anglais. Excusez-moi. Mais ça montre aussi la situation actuelle. Mais plus intéressant encore est de rapporter cela en dynamique de croissance, de diminution. Et là, on voit que toutes les religions connaissent une croissance. Toutes les religions. La seule religion qui ne connaît pas de croissance, c'est le sans-religion. Eux, ils ne croissent pas. Et pourquoi, pensez-vous, pourquoi les sans-religions n'ont pas une forte croissance? Il y a une raison très simple à cela.
Quelqu'un qui a un regain pour le spirituel?
Non, il ne faut pas aller dans le spirituel pour cela. Il faut rester très terre à terre. Oui, nombre d'enfants, oui. Plus on est religieux, plus on a d'enfants. C'est statistique. C'est statistique. Les statistiques le disent. Parce que les non-religieux, très souvent, ils ont des couples un peu voilà, sans enfants. On a un chien, on a une voiture, etc. Mais on n'a pas d'enfants. C'est parfois un peu difficile. Et donc le nombre d'enfants par couple est beaucoup plus moins élevé. Beaucoup moins élevé que chez les pratiquants de nos religions, et plus on est conservateur, plus le nombre d'enfants augmente. Et donc ça va jusqu'aux extrêmes. Voilà. Voilà. Ça a toujours été le cas, et c'est encore le cas. Donc, démographiquement, le christianisme, comme toutes les autres religions, connaissent une croissance de ce seul fait. Et donc ici, vous voyez un peu les chiffres pour trois grandes religions. Le bouddhisme, c'est difficile à dire parce que parfois ça ne se définit pas comme une religion, mais les hindous restent assez stables, 1,4% par an, c'est grosso modo la croissance de la population mondiale. Donc leur pourcentage reste stable et ils sont presque tous en Inde. Les musulmans connaissent une croissance de 1,8% par an. Donc, leur part du gâteau va donc augmenter. Et pour devenir un quart. Les chrétiens, comme j'ai dit, toutes tendances confondues, toutes catégories confondues, sont à une croissance de 1,3%. Mais quand vous avez vu les chiffres je vais retourner. Pour les catégories spécifiques, on est bien au-delà des chiffres pour les autres religions. Donc, statistiquement, la croissance est du côté des chrétiens pentecôtisants, charismatiques, indépendants, un peu évangéliques, que ce soit dans les églises historiques ou non. Hein, c'est pareil pour les églises historiques réformées, c'est les évangéliques qui tiennent la route. Et dans l'église catholique, c'est pareil, c'est plutôt les conservateurs, les charismatiques. Et là, les chiffres sont beaucoup plus importants que les chiffres chez nos amis musulmans. Donc je ne suis pas si inquiet que ça pour l'avenir au regard des développements démographiques et de la croissance de différentes religions. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions? J'ai terminé 10 minutes plus tard, mais vous m'avez coupé, je pense, 10 minutes aussi, donc je reste dans les clous. Question? Oui.
Quelle est la différence entre des pays sécularisés et des pays post-christianisés? Pour moi, il me semble que c'est pareil.
On fait quand même une différence. Séculariser ne veut pas dire qu'on va revenir sur toute la législation sur le plan moral, éthique. Et donc les États-Unis sont, là, pour une partie importante, sécularisés, mais beaucoup moins déchristianisés que l'Europe occidentale, où il y a vraiment aussi un développement au niveau de l'héritage chrétien dans la société. Donc déchristianiser, ça ne veut pas dire, ça ne s'applique pas à la pratique religieuse, mais aussi à la législation, à l'organisation de la société, à la place des institutions religieuses dans la société. Par exemple, l'Europe de l'Est est très peu déchristianisée, mais il y a une grande portion de sécularisation parmi la population, mais la société elle-même ne va pas jusqu'à déchristianiser. Donc on fait une différence. Mais c'est étroitement lié, bien sûr. D'autres questions? Loïc.
Je voudrais revenir un peu sur le passé. Après les premiers apôtres, on sait que le monde connu de l'époque, en 3 ou 4 siècles, a été rempli de chrétiens.
Ouais. On a toujours fait la mission, mais sans dire mission. C'est l'idée de la mission que nous avons, partir à l'étranger pour faire une œuvre d'évangélisation, qui date de ce siècle. Mais il y a toujours eu évangélisation. Mais comme je t'ai dit, il y avait d'autres termes pour cela. D'autres termes.
Voilà. C'était toujours le même effort, la même activité.
C'était moins organisé. Mais bon, ça c'est toute une histoire. Il y avait très peu de personnes qui allaient en dehors de l'Europe, par exemple. Quelques-uns, mais c'était pas systématique, pas organisé. Il y avait plutôt l'évangélisation des campagnes ou des populations dans un pays christianisé, mais la population était encore loin de connaître de Notre Père, par exemple, ou les bases de la foi chrétienne. Ça, on a beaucoup fait, mais ça ne s'appelait pas mission. Ouais. Non, il y a beaucoup d'écrits. Oui, beaucoup d'écrits. Mais on sait très bien ce qui s'est passé. Mais ça se faisait autrement. Pour l'anecdote, vous avez Bluetooth, vous? Vous avez un Bluetooth, une connexion Bluetooth dans votre voiture? Vous l'avez, hein? Est-ce que vous avez vu le symbole? C'est un X et un P. C'est ça, hein? C'est curieux parce que c'est grec pour Christ. Mais Bluetooth n'a rien à voir avec Christ, sauf que Bluetooth était un roi viking qui a eu la visite de quelques apôtres itinérants, comme ça s'appelait, qui priait pour lui, annonçait l'évangile, et du coup, l'un de ses enfants est guéri, et il a décidé, je deviens chrétien. Et comme lui, il devenait chrétien, il a fait un édit pour dire qu'aujourd'hui, les Danois deviennent chrétiens. Et donc, c'était le roi Bluetooth. Et il a fait une loi comme quoi tous les Danois étaient déjà moins chrétiens. C'était assez facile, hein, à cette époque. Et ils le sont encore. Bon, pour dire que, voilà, on faisait des œuvres. Hein. Ouais. D'autres questions? Oui, vous. Oui, oui.
Cette façon d'évangéliser, entre guillemets, les indigènes, est-ce que c'est considéré au sens large comme la mission ?
Oui, oui, c'était comme ça.
Oui.
Oui, c'était comme ça. C'est comme ça que nos contrées ont été évangélisées aussi. Hein. C'était comme ça que ça se passait. Oui, on peut se poser des questions comme vous, oui. On ne fait plus comme ça.
Ils amenaient non seulement une religion, mais ils amenaient leur culture, mais ça se fait encore aujourd'hui. Oui. Il suffit de regarder des films de missionnaires, j'ai vu des films, même j'ai lu des livres où des missionnaires en Amazonie, les Indiens étaient avec le dimanche au culte avec une chemise et cravate. Oui. Alors que c'était des gens qui vivaient une génération ou une demi-génération avant, oui, qui vivaient nus. Oui. Donc on a non seulement amené l'évangile, oui, mais on a amené toute une culture occidentale avec. Quoi. Oui. Je veux dire, les jésuites et, de cette époque-là ont pas fait pire, finalement.
Non. Ouais. D'autres remarques, questions avant de se quitter, vous? Bon, c'est pas dans les livres de méthode d'évangélisation que vous trouvez la croisade, mais c'est perçu aujourd'hui comme plutôt une tentative de sécuriser les voies des pèlerins vers le pays saint, vers la terre sainte. Et donc il fallait sécuriser Jérusalem et tous les endroits où les pèlerins allaient. Ils ne pouvaient plus aller parce que les musulmans avaient pris possession de cela. Donc c'était ça, cela. Et politiquement, il y a un deuxième enjeu, c'était de rompre un peu le cordon autour de l'Europe qui bloquait la route vers l'Est où se trouvaient toutes les richesses dont rêvaient les Européens. Mais on ne pouvait pas y aller parce qu'il fallait toujours passer par les musulmans. Et donc, on a voulu voilà, foncer, ça n'a pas marché, donc plus tard, ils ont pris la route vers l'Afrique pour y aller. Mais, donc, il y a plusieurs raisons aux croisades, mais ce n'est jamais une façon d'évangéliser. Il y a quelques personnes qui l'ont essayé, c'est François d'Assise d'ailleurs, qui est allé avec une croisade et qui voulait discuter, dialoguer avec le sultan d'Égypte, qui était fort impressionné par François. Mais ça n'allait pas plus loin que ça. C'était une déception. Donc les croisades, ils n'étaient pas pour évangéliser, non.
Est-ce qu'ils n'étaient pas dû au fait qu'ils étaient envoyés par l'Église ?
Oui.
C'était pas...
Oui, c'était une mission, mais pas pour évangéliser, ça c'est vrai. Ouais. Dernière question, avant de se quitter. Ça suffit pour aujourd'hui. Ok. Bon, demain, j'essaie de faire un peu plus de... On va lire davantage la parole pour trouver la réponse à la question. Mais c'est quoi la mission au juste? On a vu maintenant un panel historique. Qu'est-ce qu'on a vécu? Mais je vais vous montrer des changements profonds qui nous amènent à se poser la question, mais c'est quoi la mission? Et donc... on va être plus dans une réflexion de l'actualité. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup.